Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui. Abdourahman Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 19h30 temps universel. Ce vendredi 24 novembre 2017, au sommaire. Attaque meurtrière dans une mosquée du Sinaï en Égypte, faisant plus de 200 morts.
C'est une attaque qui vient après plusieurs faillites du gouvernement contre le terrorisme et surtout au Sinaï.
Au Mali également, 3 casques bleus et 1 soldat malien tués dans le nord-est du pays. Le nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a prêté serment. Il promet de n'exclure personne et annonce l'indemnisation des fermiers blancs. Au Tchad, l'ex-maire de Mundu, Laoken Médard, toujours en prison, malgré la décision du juge de le remettre en liberté.
Il n'a jamais été jugé, c'est détenu, c'est être immédiatement mis en liberté.
Interview à suivre dans la partie magazine, sans oublier la Minute Éco et le Journal des Sports. Lionel Messi, sacré soulier d'or européen pour la 4e fois. Mais tout d'abord, le journal. Ce carnage en Égypte, au moins 235 personnes ont été tuées ce vendredi à l'heure de la grande prière lors d'une attaque sans précédent contre une mosquée dans le nord du Sinaï menée par des hommes armés. Le point avec Eki Abadou.
L'attaque qui s'est produite autour de la mosquée d'Al-Raïda, village à l'ouest d'Al-Arich, capitale de la province du Nord Sinaï, n'a pas été immédiatement revendiquée. C'est la région où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique. Le groupe terroriste reproche au chef de cette mosquée d'être un lieu de rassemblement de soufis, adeptes d'un courant mystique de l'islam, considéré comme hérétique par les djihadistes. D'après des responsables, les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient de nombreux policiers et soldats, ainsi que des civils. La présidence égyptienne a décrété 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de la mosquée d'Al-Raïda. La branche locale du groupe État islamique a également revendiqué plusieurs attaques contre des chrétiens et des soufis. Depuis 2013 et la destitution par l'armée du président islamiste élu Mohamed Morsi, des nombreux djihadistes, dont la branche égyptienne de l'organisation État islamique, attaquent régulièrement les forces de sécurité égyptiennes dans le nord du Sinaï.
Suite à cette attaque, le président américain a dénoncé une attaque terroriste horrible et lâche. Le monde ne peut pas tolérer le terrorisme. Nous devons vaincre militairement les terroristes et discréditer l'idéologie extrémiste qui forme la base de leur existence, a indiqué Donald Trump dans un tweet. Nous reviendrons sur cet attentat dans le Sinaï, dans notre partie magazine. Au Mali, 3 casques bleus nigériens et 1 soldat malien ont été tués dans une attaque à Menaka. Les militaires maliens et les casques bleus de la MINUSMA étaient dans une mission commune pour apporter des médicaments aux populations dans la région du nord-est du pays. Plus de précisions avec Kassim Traoré, le correspondant de VOA Afrique à Bamako.
Le convoi attaqué à Menaka ce vendredi 24 novembre 2017 est un convoi humanitaire qui apportait une assistance médicale à Intelil et Tinahama dans la commune de Talataï, cercle d'Ansongo. L'attaque s'est déroulée dans la partie proche de la région de Menaka. Dès le premier coup de feu, c'est le détachement des casques bleus composé de soldats nigériens qui a repoussé l'attaque. Cette riposte était coordonnée avec les FAMA dans la région de Menaka. Dans un premier temps, 3 casques bleus de l'AMINUSMA ont été tués et plusieurs autres ont été blessés. Puis ce fut le tour de l'unique soldat malien qui a aussi perdu la vie lors de cette attaque. Un autre a été blessé. Plusieurs assaillants ont également été tués lors de la riposte des casques bleus et des FAMA avec des blessés. Le convoi humanitaire attaqué entre dans le cadre de la protection des civils de la région. Il avait aussi pour but d'apporter une assistance médicale aux populations dans les besoins. A signaler que les casques bleus nigériens étaient dans la zone de Talataï depuis le 22 novembre dernier. Ils sécurisaient la mission onusienne sur le DDR à Menaka, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, un juge a libéré ce matin 3 acteurs de la société civile détenus depuis le 2 novembre dernier pour participation à une manifestation non autorisée, complicité de dégradation de biens publics et privés. C'était au lendemain d'un meeting de protestation contre le projet de budget 2018. La manifestation avait dégénéré en violents heurts. Satisfaction de l'un des avocats des prévenus, maître Ahmed Maman Amadou.
Abbas Blazis et les deux autres de ses camarades activistes ont été renvoyés de fin de journée. Donc le juge a déclaré la manifestation autorisée, donc elle est non interdite. Et il les a déclarés non coupables, ce qui fait que dès ce soir, normalement, ils vont rentrer chez eux pour vous dire combien de fois aussi il faut croire à la justice, à son indépendance et à son impartialité. C'est une grande fierté pour nous parce que nous, notre combat, c'est que la justice soit rendue au nom du peuple nigérien, que l'indépendance soit affirmée, parce que c'est ça, tant que la justice n'est pas indépendante, on ne peut plus parler de justice, parce que c'est ce qui fait d'elle le dernier rempart contre l'injustice. Donc c'est vraiment une grande satisfaction, c'est une sorte de garantie, ça rassure le peuple nigérien.
C'était l'avocat Ahmed Maman Amadou au micro de notre correspondant Niamey Abdulrazak Idrissa. La Commission électorale nationale du Libéria a rejeté en appel le recours des candidats contestant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre. Les candidats déboutés ont déjà annoncé leur intention de saisir la Cour suprême. À Bangui, 2 véhicules de la MINUSCA ont été incendiés ce matin lors d'une manifestation dans la capitale centrafricaine. À l'origine des faits, la mort d'un élève à la suite d'un accident de circulation. Le point avec Freeman Sipila, notre correspondant en Centrafrique.
Les manifestations ont éclaté dans la matinée devant le lycée technique, établissement scolaire de la victime de l'accident, avant de se propager dans certains secteurs de la capitale. Selon les manifestants, le jeune élève de 18 ans a été heurté par un véhicule UN qui roulait à toute allure. Apprenant la nouvelle de sa mort, ses condisciples remontés ont érigé des barricades devant leur lycée, mettant le feu à un véhicule UN. Quelques minutes plus tard, une autre voiture de la MINUSCA sera brûlée non loin de son quartier général. À la MINUSCA, les responsables rejettent l'implication de leur véhicule dans l'accident. Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission.
Aucun des véhicules de la MINUSCA n'est impliqué dans l'accident et ont causé la mort de ce jeune centrafricain. Elle juge inacceptable que ces véhicules, utilisés dans le cadre de son mandat, soient ainsi pris pour cible dans ces attaques violentes et injustifiées. La MINUSCA souligne que la justice populaire n'a pas lieu d'être dans un état de droit et qu'il existe des procédures pour résoudre ce genre d'incident, aussi malheureux soit-il, y compris les accidents de circulation.
Pour l'instant, un calme règne dans les rues de la capitale et les forces de sécurité multiplient les patrouilles. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa prend officiellement les rênes du pays 3 jours après la démission de Robert Mugabe. Il a prêté serment ce matin à Harare devant des milliers de partisans massés dans un stade de la banlieue de la capitale. Blanche Chanou.
Relancer l'économie en ruine, combattre la corruption et indemniser les fermiers blancs, c'est la priorité du nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui a définitivement tourné la page de 37 ans du règne de Robert Mugabe, en tout cas dans le texte. Surnommé le crocodile pour son caractère impitoyable, à 75 ans, cet ancien bras droit de Robert Mugabe vient enfin d'atteindre son but, succéder au maître jusque-là incontesté du Zimbabwe. Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, jure en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe, a-t-il déclaré dans son message. Les attentes sont nombreuses, mais les doutes persistent sur l'aptitude du nouveau chef de l'État à rompre avec les habitudes de l'ancien régime. Conscient de cette mission, il a promis de relancer l'économie et combattre le taux de chômage qui est estimé à 90%. Le nouveau chef de l'État n'a pas non plus manqué de rendre hommage à son prédécesseur, père de la nation, même si le sort réservé au couple présidentiel reste mystérieux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la diplomatie américaine s'est dite profondément inquiète de la libération par les autorités pakistanaises d'un des responsables présumés des attentats de Bombay en 2008, également dirigeant du groupe extrémiste Jamaat-ud-Dawa, Hafiz Saeed, dont la justice pakistanaise a ordonné la libération cette semaine, avait été assigné à résidence en janvier. Le prince héritier saoudien qualifie le guide suprême iranien de nouveau Hitler dans un entretien au New York Times, alors que les tensions vont crescendo entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Des crispations en Allemagne, le chef des sociodémocrates Martin Schulz est ouvert à la formation d'une coalition avec la chancelière afin de faciliter une sortie de la crise provoquée par l'échec d'Angela Merkel à former un gouvernement. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, déplore la mort hier de 5 soldats de l'armée ukrainienne dans des affrontements avec des rebelles séparatistes pro-russes. Puis le président argentin, Mauricio Macri, exige une enquête sérieuse pour savoir la vérité sur le sous-marin San Juan qui a disparu la semaine dernière avec les 44 membres de son équipage. Comment un sous-marin qui était en parfaite condition pour naviguer a été visiblement victime d'une explosion, a déclaré le chef de l'État. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Solange Niamoulissa.
La société française Luberger annonce avoir été choisie pour la construction du pont Cantilever sur la rivière Cross dans la localité des Coq-Foum, servant des frontières entre le Cameroun au Nigeria. D'un coût de 1,7 million de dollars américains, financé par un prêt conjoint du Fonds africain de développement et par une aide du Fonds pour le développement africain de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ouvrage sera constitué de deux voies de circulation. La Banque centrale du Kenya indique que l'inflation globale en glissement mensuel du Kenya a chuté à 5,7% en octobre 2017 contre 7,1% en septembre 2017. Selon la CBK, malgré une hausse des prix internationaux du pétrole qui a exercé une pression à la hausse sur les prix du carburant, l'amélioration des conditions météorologiques et l'extension de la subvention concernant le maïs devraient continuer à soutenir une nouvelle baisse des prix des denrées alimentaires et une baisse de l'inflation globale à court terme. Le groupe BMCE, Bank of Africa, a obtenu l'autorisation du régulateur marocain du marché des capitaux pour la réalisation d'un emprunt obligatoire de 400 millions de dirhams marocains, soit environ 42,5 millions de dollars. Ces titres ne sont pas assortis de garanties et ne seront pas cotés sur la bourse de Casablanca.
La page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Super Sport compte sur son public pour renverser le TP à la finale retour de la Coupe CAF.
Et oui, le club sud-africain prévoit une entrée gratuite au Lucas Moripo Stadium pour tous les supporters qui porteront un t-shirt bleu, couleur du club local. Après la défaite 2-1 lors de la finale aller à Lubumbashi, une victoire d'un but à zéro face au TP Mazembe suffirait aux Sud-Africains pour monter sur le toit de l'Afrique.
Messi sacré soulier d'or européen pour la quatrième fois.
Tout à fait, la star du FC Barcelone a terminé Pichichi, meilleur buteur du championnat d'Espagne donc la saison dernière, avec 37 buts. Au classement du soulier d'or européen, la puce a dévancé l'attaquant néerlandais Bas Dost du Sporting Portugal, 34 buts, et le Gabonais de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, 31 réalisations. Déjà lauréat en 2010, 2012 et 2013, l'Argentin égale ainsi le record de Cristiano Ronaldo, sacré en 2008, 2011, 2014 et 2015. Messi succède à son coéquipier Luis Suarez, récompensé en 2016 et qui lui a remis le trophée aujourd'hui.
Arsène Wenger aimerait que Giovanni van Bronckhorst lui succède.
En fin de saison dernière, après une longue réflexion, Arsène Wenger et Arsenal ont finalement décidé de poursuivre l'aventure jusqu'en 2019. Pour autant, son départ d'Arsenal se rapproche et la question de sa succession se pose. Selon le Daily Star, un nom aurait la préférence de Wenger pour lui succéder le jour jour où il quittera le banc des Gunners. Cet homme, c'est Giovanni Van Bronckhorst, l'entraîneur de Feyenoord, qui vient notamment de remporter un titre de champion des Pays-Bas avec le club de Rotterdam. Il connaît bien Arsenal et Wenger pour avoir joué pour le club londonien entre 2001 et 2003, avec à la clé un titre de champion d'Angleterre en 2002.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour et on revient sur ce carnage en Égypte. Au moins 235 personnes ont été tuées dans l'attaque d'une mosquée dans le nord du Sinaï. Elle n'a pas encore été revendiquée, mais il s'agit de l'attentat le plus sanglant dans la région depuis qu'une insurrection islamiste a éclaté il y a 3 ans. Les djihadistes du Sinaï ont ciblé les forces de sécurité au début de cette insurrection, puis les tribus locales qui collaborent avec les forces armées. Ils ont également étendu leur lutte armée en dehors de la péninsule, commettant plusieurs attentats dans la région du Caire ou dans le sud de l'Égypte. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Hawaïda Mustafa, professeur à l'Université du Caire.
C'est vraiment une attaque terrible et c'est une attaque qui est tout à fait différente de tout ce qui est terroriste que nous avons affronté. Je vois le Sinaï toujours est attaqué par des actes terroristes, mais cette fois-ci c'est la première fois que l'attaque contre les musulmans est dans une mosquée. C'est une étape tout à fait différente. C'est pas juste contre les forces de l'armée égyptienne ou de la police, mais le bilan est très grand. Le but, c'est de faire savoir à tout le monde qu'il veut avoir une réaction, ce n'est pas seulement une réaction nationale, mais surtout internationale. C'est une attaque qui vient après plusieurs essais du gouvernement contre le terrorisme et surtout au Sinaï.
L'attaque a été perpétrée à l'ouest d'Al-Arish, la capitale de la province du Nord Sinaï, région où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe État islamique. Cette attaque porte-t-elle donc la marque du groupe EI d'après vous?
Bien sûr, mais cette fois-ci aussi, on peut dire que, ça selon les experts militaires, je crois que la tâche de Daesh existe. Le problème cette fois-ci, que l'attaque devient dans la capitale, l'Al-Arish, où il y a beaucoup de citoyens et les groupes islamistes profitent de cette population.
Comment expliquer une telle flambée d'attentats terroristes dans le Sinaï?
Je crois que les islamistes veulent dire qu'ils sont là partout, dans des régions des pauvres, des régions des riches, dans le Sinaï. Et aussi, vous vous souvenez, l'attaque, la dernière attaque à Al-Wahed, c'est une région qui est très proche de Giza et de la capitale égyptienne. Les éléments terroristes, de temps en temps, veulent faire une attaque qui est incomparable. Ils changent de leur politique pour avoir un nouvel espace. C'est pour cela que, de temps en temps, on voit un changement dans les tactiques des islamistes. Les forces égyptiennes, toujours, ils ont des initiatives dans le Sinaï pour lutter contre les islamistes.
Que fait le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sissi pour sécuriser le Sinaï et combattre le terrorisme?
Le gouvernement du président de Fattah al-Sissi, ils ont réussi à faire des attaques précédentes, c'est-à-dire avant que les terroristes commencent leur combat. Et ils ont réussi à faire beaucoup de dégâts contre les islamistes terroristes. Mais même s'ils ont réussi, il y a beaucoup de difficultés. Le gouvernement a une intention de faire évacuer les habitants, mais il y a beaucoup de voix qui disent qu'il faut évacuer la région pour que les forces égyptiennes puissent confronter librement les éléments. Mais jusqu'à maintenant, le choix est très difficile. C'est une mesure que ce n'est pas facile à prendre, parce que même les habitants là-bas refusent leur vie, leur région. C'est pour cela que même les affrontements n'est pas total.
C'était la professeure Hawaïda Mustafa en ligne de la capitale égyptienne.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la chimioprévention du paludisme saisonnier.
Cette méthode consiste à lutter contre le paludisme en administrant des traitements de courte durée, généralement au cours de la saison des pluies.
Pour en savoir davantage, nous recevrons comme invité Thomas Drux, professeur de santé publique à la Tulane University, ici aux États-Unis.
Nous écouterons aussi le témoignage du docteur Alidou Tinto, promoteur d'une unité de recherche au Burkina Faso.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
On passe au Tchad. Laoquin Médard reste en prison. Hier, le juge d'instruction avait pourtant ordonné la libération de l'ancien maire de Moundou, mais le procureur de Moundou a refusé de signer l'autorisation de sortie de prison. Que s'est-il passé? Yacouba Ouedraogo a joint l'un des avocats de Laoquin Médard, maître Adolphe Bekoutou.
Il n'y avait pas que Laoquin Médard, hein. Il y avait deux autres co-détenus avec lui également. Le nouveau code de procédure pénale dispose que lorsqu'un prévenu est détenu et que cette détention dure plus de 4 mois, qui n'a jamais été jugé, ce détenu peut être immédiatement mis en liberté. D'office, le procureur qui représentait donc le ministère public à l'audience n'a pas réagi et s'est contenté simplement de dire que non, que la mise en liberté de nos clients allait poser un trouble à l'ordre public. Nous avons dit que ce n'est pas ça le débat. Et le tribunal, en toute responsabilité, a décidé que séance tenante, les 3 prévenus sont mis en liberté d'office. D'office, ça veut dire que immédiatement. Parce que nos clients, au jour d'aujourd'hui, ont été privés de leur liberté depuis plus de 4 mois et je crois que nous sommes au 6e jour.
Comment se fait-il alors qu'il soit toujours en prison?
Nous ne nous retrouvons plus face à notre système judiciaire. En tant qu'auxiliaire, je suis désolé de le dire. Mais voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons. Parce qu'à la fin de l'audience, il était question, comme visage que le procureur signe lors de mise en liberté au nom des 3 prévenus, et à la dernière minute, il y a eu résistance. En guise de réponse, il prétend qu'il a relevé appel de cette décision. Mais cet appel n'a aucun effet suspensif par rapport à la mise en liberté d'office. Je crois qu'ils sont définis de manière maintenant abusive et arbitraire. Nous avons affaire pratiquement à un dossier qui n'est plus judiciaire, mais peut-être qu'il y a un autre nom que je ne peux pas qualifier.
On sait que M. Laoquin Médard est de l'opposition et qu'il est arrivé 3e à la présidentielle de 2016. Pensez-vous que ce procès soit politique?
Sur le plan judiciaire, je crois que pour nous, nous sommes satisfaits de la décision qui a été rendue hier avec lui, que ça porte une autre casquette. Et il appartient à qui les droits maintenant de qualifier cela comme il veut.
Monsieur Méda aurait entamé une grève de la faim aujourd'hui, est-ce vrai?
Oui, mais franchement, mettez-vous à sa place. Lorsque la décision ou bien le tribunal rend une décision en votre faveur pour donc vous accorder la liberté de rentrer chez vous et qu'on s'oppose quelque part, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui reste à faire, le pauvre. Nous, nos armes ne sont que les armes de droit. Et les armes de droit, nous les avons fait valoir devant qui de droit en audience publique. Nous avons alerté la hiérarchie.
C'était Maître Adolphe Bekoutou, un des avocats de Laoquin Médard, l'ancien maire de Moundou.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est le cri de détresse des jeunes face au montant exorbitant de la dot demandée par leur future belle-famille. On suit ce reportage sur place de notre correspondant Charlie Kasereka.
Pour les non-initiés, la dot est une négociation complexe et très formelle entre les deux familles pour parvenir à une entente sur les prix que les fiancés aura à verser pour pouvoir épouser la fiancée. John Mukengera vient juste de verser sa dot à sa belle famille. Ça n'a pas été chose facile pour lui.
C'est entre 2000 et 2500. La dot est exorbitante aujourd'hui et il n'y a pas de travail. Donc pour moi et pour tous ceux qui sont en train de se préparer pour cette épreuve, c'est tout à fait un combat des titans, c'est grave.
Sans emploi ni activité stable, les jeunes qui aspirent au mariage sont découragés par cette dot coûteuse et décourageante. Fiston cohabite avec sa femme depuis 8 ans. Ils ont eu ensemble 4 enfants. Il n'a pas réussi à réunir la somme de 2000 dollars demandée par sa belle famille.
Non, moi je n'avais pas donné la dot normalement. cette dernière a véritablement perdu sa valeur. C'est devenu un fonds de commerce où l'on la valorise en argent. Moi, la somme qui m'a été demandée était trop lourde pour moi. Je n'ai pas de travail.
Pour M. Bahati, la trentaine, coiffeur dans un salon de coiffure ici à Goma, lui aussi, père de 4 enfants, qui vit avec sa conjointe dans la même situation, lui pense que les parents qui ont des filles doivent considérer la dot comme un symbole et non une occasion pour s'enrichir.
L'affaire dot est devenue anormale. Moi, je dirais aux parents qui ont encore des filles sous leur toit, la dot, c'est juste un symbole et non pas une revanche pour s'enrichir en énumérant toutes les dépenses.
Madame Agapé, la trentaine, elle a vécu 6 ans avec les pères de ses 3 enfants qu'il a ensuite abandonnés. Elle pense que si la dot avait été versée à sa famille, son ex-mari n'aurait pas agi ainsi. Aujourd'hui, elle prend seule en charge de ses 3 enfants et regrette les choix qu'elle avait faits.
La dot donne la valeur à la femme et pour les hommes, le fait de verser la dot à ta belle-famille n'est pas à dire que tu as le droit de maltraiter ton épouse.
Alors, quelle valeur peut-on donner à la dot? Difficile à trancher. D'autres voulaient que la pratique soit uniformisée par une loi, mais avec plus de 400 groupes ethniques comptés en RDC, avec bien sûr différentes coutumes, c'est une mission difficile, pense Justine Massika, cadre de la société civile en RDC.
Normalement, la loi congolaise, elle est vraiment très claire, on réfère à la coutume. Et c'est donc difficile qu'on puisse dire que la loi peut être uniforme. Et je crois que c'est à nous, de la société civile, de sensibiliser tout le monde pour qu'il sache que la dot, c'est vraiment un symbole.
Dans certaines familles, elle a pris des allures d'une facture globale, incluant tous les frais et les dépenses consenties durant l'éducation et la formation de la jeune fille offerte en mariage, ensuite d'une grande cérémonie de mariage qui doit suivre les passages en mairie et l'accord de l'état civil. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
On peut vivre et être heureux en Afrique, c'est le credo de la Canadienne Melanie Daigle qui a fondé il y a 6 mois Happy in Africa, un site d'information positive sur l'Afrique. Un reportage à Dakar de Mamadou Diop.
Dans ce souci de montrer une autre image du continent, la Canadienne Melanie Daigle a fondé il y a 6 mois Happy in Africa, un site d'information positive sur l'Afrique. L'idée, promouvoir le continent et mettre en avant ses progrès.
Nous, on vit ici, c'est sûr qu'il y a, il y a encore des problèmes, c'est important aussi de les dénoncer et tout, mais c'est important aussi de mettre de l'avant ce qui fonctionne, les projets qui ont des réelles retombées, les gens qui font vraiment avancer les choses. Il y a de l'innovation aussi, il y a une Afrique qui est ambitieuse, qui est dynamique, et puis c'est elle en fait qu'on met de l'avant.
Constituée d'une équipe de rédaction basée à Dakar, Happy in Africa a pour principale cible la jeunesse africaine. Souleymane Diallo est l'un de ces jeunes journalistes qui vont à la quête des belles initiatives africaines.
C'est une équipe très dynamique, c'est une équipe très enthousiaste également, c'est avec beaucoup de sensibilité. Moi je suis sénégalais, j'ai baigné dans la culture guinéenne également parce que je suis originaire de la Guinée. Le Burkina est représenté, le Sénégal est représenté, donc c'est cette Afrique en miniature qui nous permet aujourd'hui en fait de parler et puis d'évoquer la richesse africaine.
Happy in Africa réunit aujourd'hui près de 600 000 fans sur sa page Facebook. Aïssa Tou fait partie de ces jeunes qui prennent leur dose de positivité chaque matin en regardant le site.
J'étais vraiment heureuse de découvrir qu'il y a une page qui parle de l'Afrique positivement. C'était une page, c'était comme si c'était l'Afrique qui parlait de l'Afrique pour les Africains. Donc j'ai aimé la page et je n'arrêtais plus à la suivre.
Diffusé uniquement en français pour le moment, le site lancera la version anglaise dans le courant de l'année 2018, puis pourquoi pas dans des langues africaines.
Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Lionel Gaïma. La console, ce sera Franklin, présentation Abdurrahmania. C'est dans le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.